C'est les Apatrides Anonymes, édition du 16 mai 2024. On est en direct tous les deux jeudis, 18h30, ou en balado sur choc.ca. C'est quoi les Apatrides? C'est votre rendez-vous bimensuel de 70 minutes sur les actualités migratoires, sécuritaires, frontalières, sur le racisme ordinaire ou systémique. On vous parle de technosolutionnisme, de refoulements illégaux, de détentions arbitraires de migrants, de camps de réfugiés, de gouvernements colonialistes et de médias démago-populistes. Et la liste n'est pas exhaustive. Je m'appelle Simon. Je suis à l'animation cette semaine en compagnie de mes deux comparses habituels. D'abord, Marie-Ève qui est à la console pour l'instant. Salut Marie-Ève.
Bonsoir à vous.
Bonsoir à toi. On va te retrouver un peu plus tard avec des nouvelles de l'Union européenne et avec des actualités autochtones, non pas d'ici, mais d'ailleurs.
Mais d'ailleurs.
Non, voilà, c'est ça. Il y a Mathieu qui est en ma compagnie dans le studio principal. Toi, tu as préparé un segment Royaume-Uni-Irlande.
Oui, salut Simon.
Salut
oui.
Mathieu. Surtout, tu nous présentes le plus gros morceau de cette édition. On reçoit en entrevue Maxime Fortin. Salut Maxime.
Salut.
qui est déjà ici à nos côtés, qui va nous dresser un bilan, je dirais, mitigé de la lutte contre le racisme. Peut-être enthousiasmant, on verra.
Oh, je pense qu'on peut garder mitigé.
C'est ça, sur les dernières années sur la lutte contre le racisme au Québec. C'est Mathieu qui va mener cette entrevue avec toi dans une petite minute. On aura aussi un agenda militant et culturel vers la fin de l'émission et, comme d'habitude, des nouveautés musicales assez variées. Je vous rappelle que vous écoutez Les Apatrides Anonymes sur choc.ca. On retrouve Mathieu avec notre invité Maxime Fortin dans quelques secondes.
Le 27 mars dernier, Maxime Fortin, chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, publiait un billet intitulé « Lutte au racisme, 4 ans plus tard, où en est le Québec? ». Aujourd'hui, nous le recevons pour approfondir la réflexion sur les politiques de la CAQ, l'évolution de la lutte contre le racisme au Québec et le climat passablement toxique sur ces enjeux importants actuellement. Bonjour Maxime, rebonjour Maxime.
Salut.
Ça va bien?
Oui, très très bien.
On va commencer avec une question de base qu'on pose à tous nos invités pour mieux les connaître. Peux-tu nous présenter brièvement ton parcours et ton travail à l'IRIS actuellement? Okay.
Donc pour y aller assez sommairement, donc moi je suis chercheur en sciences politiques. J'ai fait mon parcours beaucoup j'ai fait mon parcours entièrement en sciences politiques. J'ai été professeur, j'ai été enseignant dans cette discipline-là, mais j'ai été surtout coordonnateur de la Ligue des droits et libertés section Québec pendant 5 années. Mm-hmm. Et c'est beaucoup à travers ce travail-là que j'ai touché les enjeux du racisme. Et maintenant, je suis à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Et disons que je suis très heureux d'amener ces préoccupations-là dans le champ de la recherche.
C'est les mêmes sujets, les mêmes enjeux que tu traites à l'IRIS?
En fait, à l'IRIS, on est des généralistes, on touche à tout. Mm-hmm. Mais bien entendu, on a nos secteurs de prédilection. Donc, c'est bien entendu, moi, je touche beaucoup à l'action communautaire, l'action collective, les mouvements sociaux, mais l'antiracisme et les politiques qui sont liées au racisme m'intéressent et m'interpellent beaucoup, je dirais.
Tout à fait, tout à fait. C'est bon. On va y aller dans le vif du sujet. Quel est ton constat général de l'approche de la CAQ en termes de lutte au racisme depuis leur arrivée au pouvoir il y a 6 ans? Une question très générale.
Ouais. Disons que la CAQ a été forcée de reconnaître qu'il y avait un problème, mais la CAQ n'a pas véritablement décidé de s'attaquer au problème. Je pense qu'on peut résumer ça de cette façon-là.
Ouais, ouais.
La CAQ joue sur les apparences. La CAQ tente de nous faire croire qu'elle s'intéresse véritablement à ce dossier-là et qu'elle, qu'elle tente d'enclencher des solutions par rapport aux problèmes qu'on fait face, mais je pense qu'on est beaucoup devant une situation où on fait face à de la poudre aux yeux. On a très peu de volonté politique de mener les dossiers et de pousser les dossiers en avant, et je pense qu'on est en réaction beaucoup, en fonction des réactions de l'opinion publique face à différentes affaires.
Dont les enjeux de racisme et d'identité. Justement, ton article et ton billet est intitulé 4 ans plus tard. Donc, 4 ans plus tard, quel bilan fais-tu des recommandations du rapport du groupe d'action contre le racisme, le GACR, dont on n'entend plus parler vraiment, là, mais ça a été créé un peu en réaction à toute la lutte par rapport à Black Lives Matter, George Floyd, tout ça. puis 4 ans plus tard, qu'est-ce qu'il en reste?
Il en reste pas grand-chose. Il faut se replacer dans le contexte. Donc, il y a 4 ans, donc c'était la seconde mouture de Black Lives Matter. Donc, il y avait vraiment un contexte, il y avait une forme d'effervescence. Et quand on a annoncé la création de ce groupe-là, déjà à la base, des gens ont mentionné que la composition du comité était quand même assez spéciale. Il y a des gens qui n'avaient pas du tout l'appui et la confiance des groupes racisés qui siégeaient sur ce comité. Mm-hmm. Mais surtout aussi, il n'y avait au Québec, on commence à avoir certaines personnes qui sont des experts et des expertes au niveau de la question du vivre ensemble ou de l'antiracisme ou du racisme. Et ces gens-là ne faisaient pas partie du comité. Donc déjà là, à la base, c'était quand même assez mal enligné. Et une partie des recommandations du comité ne sont tout simplement pas appliquées. Quand on regarde les revendications principales là, du rapport, donc beaucoup des revendications touchent des questions comme la discrimination au niveau des forces policières, donc toute la question du profilage racial, la discrimination au niveau du logement, et le rapport va plus loin que ce que la CAQ est prêt à aller, et ça c'est le problème. Donc même si le groupe comme tel on pouvait douter de sa capacité à apporter des solutions, et bien les quelques pistes de solutions intéressantes amenées par le groupe, la CAQ n'est même pas prête à les mettre en chantier.
D'ailleurs, on avait même chuchoté à l'époque que certains députés et ministres racisés avaient pas voulu participer au comité parce que la CAQ ne reconnaissait pas, entre autres, le racisme systémique. Donc, c'était une espèce de difficulté pour ces personnes-là là, d'y participer. Là.
Oui, à la base, tu sais, c'est un peu l'éléphant dans la pièce. T'sais, la question du racisme systémique, c'est vraiment l'éléphant dans la pièce, puisque comment voulez-vous que des acteurs du milieu du vivre ensemble ou de l'antiracisme accordent une crédibilité à un acteur politique qui dit vouloir travailler sur la question du racisme, mais qui est complètement allergique à l'expression qui est de plus en plus utilisée de manière très consensuelle pour définir un racisme qu'on reconnaît de plus en plus. Donc, à la base, il y a un gros problème quand le gouvernement mène une guerre des mots et que la guerre des mots semble peut-être plus importante que le dossier.
Que les solutions ou travailler sur les enjeux, oui, tout à fait. À l'époque aussi, il y a eu dans cette foulée-là la nomination d'un ministre responsable de la lutte au racisme. Ça a été Benoît Charrette en 2021, ensuite Christopher Skeet actuellement. Ça non plus, on n'a pas vraiment vu de résultats, des faits.
Principalement, on nomme des gens qui sont, je dirais, assez peu intéressés par les dossiers, assez peu connaissants des dossiers, qui n'ont pas la stature, la carrure pour mener ces dossiers-là. Et très rapidement, les gens qui sont en interaction avec eux se rendent bien compte que ça ira nulle part.
Ouais, c'est de la façade plus qu'autre chose.
Ouais, on place des pions.
Oui, pour que ça paraisse bien. Mais si on y voit plus dans le encore plus profond, selon ton analyse, quelles sont les raisons fondamentales qui font que les caquistes s'obstinent à refuser de reconnaître le racisme systémique, le principe de Joyce et toutes ces choses-là qui semblent assez évidentes pour beaucoup de gens là.
C'est ça. Est-ce qu'ils croient pas en ça ou c'est purement politique électoraliste ou?
Je dirais que c'est les deux. Je dirais que du côté de la CAQ, il y a une non reconnaissance de certaines réalités. Qui sont reconnus par différents groupes, par différentes institutions. Donc, je dirais qu'il y a vraiment un problème au niveau de la CAQ dans la lecture de la réalité. Il y a un décalage entre ce que la CAQ perçoit de la réalité et ce que beaucoup de gens dans la population et dans les personnes qui travaillent, qui étudient ces réalités-là, perçoivent. Donc ça, il y a un écart au niveau des perceptions, il est évident. Mais au niveau de la CAQ, il y a un électoralisme. Il y a le fait que la CAQ est parvenue à se hisser au pouvoir en allant chercher le soutien des francophones et d'une partie des francophones qui sont, je dirais, un peu apeuré par la disparition du fait français.
Qui se voient comme des victimes un peu aussi.
Qui se voient d'une certaine façon comme les espèces, les victimes ou les perdants d'une société qui change, qui se transforme, qui devient de plus en plus complexe, multiculturelle. Et la CAQ est une forme de rempart que ces gens-là identifient. Et la CAQ a conscience que ces gens-là les voient comme ça. Et je pense que la CAQ est très réticente à changer son fusil d'épaule pour ne pas perdre le vote de ces gens-là. Et je dirais que même, je suis persuadé qu'il y a des gens à la CAQ qui se rendent bien compte de l'absurdité de leur propre discours, mais pour des raisons électoralistes, ne vont pas le changer.
Ouais, mmh. Suivre la ligne, c'est tout, là.
Mais dans le cas du principe de Joyce, par exemple, c'est un peu particulier parce que ça a été une histoire énorme au Québec, la mort de Joyce Echaquan. Et ensuite, les Autochtones, surtout dans ce cas-ci, les Atikameks, ont vraiment demandé. C'était vraiment une condition, c'était vraiment une évidence pour eux d'appliquer ça dans le réseau de la santé particulièrement. Puis c'était pas quelque chose de tellement compliqué non plus. C'était pas quelque chose reconnaître ça et l'appliquer. C'était déjà enclenché dans le réseau de la santé de toute manière. Donc ce blocage-là, il est difficile à comprendre.
Oui, ça c'est particulièrement difficile à comprendre. Il serait très intéressant de rencontrer les intervenants, les leaders autochtones qui ont eu les discussions pour savoir aussi quelle réception ils ont eu, quel discours ils ont fait face, puisque il est très difficile de comprendre ce blocage-là. Et on peut spéculer sur les raisons. Et l'une des raisons sur lesquelles on peut spéculer, c'est que beaucoup de gens à la CAQ et au gouvernement sont très réticents à intégrer les notions et le vocabulaire qui vient des groupes sociaux. Ils ont un peu l'impression que ça vient de forces qui sont moins crédibles, qui sont biaisées. Et ça, c'est un gros problème. Beaucoup de gens au niveau gouvernemental et au niveau de la CAQ, ont une perception assez négative des gens de la société civile. Et peu importe que quelque chose de très crédible soit amené parce que ça vient un peu de la société civile, c'est vu un peu comme c'est-tu menaçant, ça va-tu remettre en question? Est-ce qu'on peut réellement intégrer ça au fonctionnement de l'État?
Oui, on le voit dans le cadre des groupes communautaires, entre autres, qui sont vraiment très mal reçus en général par les ministres et les députés de la CAQ. Avant de passer à quelques notes de musique pour la deuxième partie de l'entrevue, on l'a effleuré, tu l'as nommé brièvement, les interpellations aléatoires, interpellations policières, qui étaient aussi dans le rapport du groupe contre le racisme. On a vu ce que le ministre Bonnardel a continué à faire, une nouvelle définition des interpellations policières, mais qui change rien, a fait un projet de loi qui fait que finalement, ça peut toujours exister, a contesté le jugement Yergo aussi. Donc ça, c'est une autre obstination, c'est assez incroyable.
Oui, ça, c'est une obstination et c'est peut-être l'un des éléments les plus frustrants du comportement de la CAQ dans le dossier de l'antiracisme. Pour se rappeler le contexte, Black Lives Matter, tout ce contexte-là vient d'une violence policière, vient du profilage, vient vraiment de la discrimination que les forces policières font subir aux personnes racisées. Donc c'est à quelque part un peu le premier enjeu et le groupe de 2020 a clairement établi qu'il faut agir par rapport à ça.
Ouais.
Et qu'est-ce que la CAQ fait? La CAQ, devant un jugement qui potentiellement peut éliminer une certaine forme de profilage, la CAQ conteste le jugement et est le seul gouvernement au Canada à le faire. T'sais, il faut le dire, les autres gouvernements au Canada n'ont pas décidé de contester le jugement. Il n'y a que le gouvernement de la CAQ qui a décidé d'aller dans cette voie-là. Donc, à quelque part, il y a une forme de volonté politique de combattre les outils qu'on met pour lutter contre le racisme.
C'est dans la même logique, là, évidemment. Même le fédéral n'a pas contesté non plus, donc voilà.
Donc, voilà quelques notes de musique pour clore cette première partie. On vient avec Maxime Fortin dans quelques secondes. Retour aux Apatrides Anonymes, toujours en compagnie de Maxime Fortin de l'IRIS, qui nous parle du beau bilan de la CAQ en matière de lutte contre le racisme dans les 4 dernières années. On n'a pas parlé de Uber, des permis de taxi, des 10 000 dossiers d'immigration à la poubelle, du nouveau musée de l'histoire nationale qui s'en vient. Bref, Mathieu, j'ai une, t'as d'autres questions, peut-être un peu plus générales cette fois-ci sur...
Marie-Ève voulait y aller, je vais la laisser.
Ouais, mais moi j'aimerais ça revenir sur... parce qu'une des recommandations du rapport, il me semble, avait trait au travail puis à l'accès à l'emploi, il me semble, puis Il me semble que dans ton article, tu fais lien avec les travailleurs migrants, les permis fermés, puis les travailleurs temporaires aussi.
Ouais, ben à ce niveau-là.
Je trouvais ça intéressant ben, ça, de faire ce lien-là que tu fais dans ton article. J'aimerais ça voir si tu peux en parler un peu.
Il est assez aberrant de voir que la CAQ, dans le dossier des permis, ne facilite vraiment pas l'intégration des travailleurs-travailleuses. Donc, tu sais, quand ce dossier-là était dans l'œil public, la CAQ s'est distinguée en réclamant que les enfants des travailleurs migrants n'aient pas accès aux services de garde. Tu sais, à un moment donné, il y a une forme d'insensibilité aussi derrière ça. Tu sais, on est devant un contexte où on le voit. Il y a de toutes sortes de cas d'abus. Des travailleurs migrants victimes, des travailleurs sans permis, qui sont victimes de toutes sortes de discriminations et d'abus. Et on est vraiment dans une situation où il faut aménager la situation. Il faut regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là. Pas chercher une façon de les priver de service ou de les retourner chez eux. Donc, la volonté de la CAQ, ou plutôt le réflexe de la CAQ en soi, est condamnable dans ce dossier-là. La CAQ regarde le dossier et son réflexe est de dire « OK, il faut faire en sorte qu'on le fournisse moins de services. » Donc, ça, à quelque part, ça témoigne d'une volonté, ou du moins d'une non-volonté.
Ouais.
Là, je ne sais pas si ça va se rendre en Cour suprême. La décision de la CAQ n'est pas encore, je crois, arrêtée. Là, mais...
Non, on est dans un dossier de compétences partagées. Donc, c'est les dossiers les plus complexes. Et malheureusement, la CAQ, là-dedans, manœuvre beaucoup pour faire en sorte que le Québec en fasse le moins possible dans le dossier des travailleurs.
Oui, puis de toute façon, le jugement va aller en Cour suprême, mais en attendant, ce qui est intéressant, c'est que la Cour d'appel n'a pas voulu l'appliquer, appliquer la loi tout de suite. Donc, c'est intéressant. Ça peut permettre aux gens quand même de souffler un peu. Là.
Et, ouais, et ça, c'est une tendance qui commence à être intéressante. On voit que certains jugements ou tribunaux sont, je dirais, plus progressistes ou plus sensibles que les décisions de la CAQ.
Oui.
Donc, il y a, à quelque part, on s'est demandé si les tribunaux sont pas devenus plus progressistes que notre propre gouvernement.
Ouais, comme on disait de la Cour fédérale avec les conservateurs
à
l'époque. plusieurs ministres caquistes, avec en tête de liste Jean-François Roberge, ministre responsable entre autres de la langue française, semblent à l'offensive sur leur programme nationaliste identitaire. Le dernier exemple en date étant l'adoption du projet de loi 52 récemment, qui reconduit la clause dérogatoire afin de protéger la loi 21 sur la laïcité de l'État, des chartres. Selon toi, on en a parlé un peu tantôt, mais j'aimerais ça que tu nous en parles. Est-ce une fuite en avant de fin de règne, même s'il reste 2 ans et quelques à leur mandat, ou vraiment une volonté idéologique absolutiste? Bon, t'en as parlé un peu tantôt, mais dans le contexte politique actuel, pourquoi continuer malgré qu'ils perdent dans les sondages? C'est difficile à comprendre.
Je pense qu'effectivement, ils y croient et c'est une forme de point d'unité dans leur troupe. Donc, que de changer de direction à ce niveau, à ce moment-ci ferait en sorte qu'il y aurait beaucoup de désunion et de désaccord au sein de leur rang. Donc, je pense que c'est quelque chose qui les raffermit, là, qui les unit. Mm-hmm. Mais je pense aussi qu'il y a une fuite en avant, c'est-à-dire qu'on a fait cette stratégie-là. Cette stratégie-là nous a été jusqu'à maintenant payante. Donc, on continue et on tente de l'amener jusqu'au bout et on verra les résultats. Donc, je pense que la CAQ, vraiment, il va all-in sur le nationalisme identitaire. Et ce qui est extrêmement pernicieux dans tout ça, c'est que la CAQ est vraiment en train de jouer le dossier du nationalisme contre les droits. Donc, on est en train de vivre une espèce de chapitre où la CAQ essaie de faire choisir les Québécois. La CAQ nous présente une espèce de faux choix entre la défense du fait français et le respect des droits individuels.
Mm-hmm.
Et c'est extrêmement pernicieux comme logique. De un, les deux sont tout à fait possibles et il n'y a pas d'opposition entre les deux. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire les deux, mais les deux se peuvent. Mais de opposer la défense des droits individuels à une espèce de défense des droits collectifs.
La nation.
Ouais. Il y a quelque chose de glissant et de dangereux là-dedans.
Oui, ça c'est clair. On le voit ailleurs aussi. Justement, pourquoi ce populisme identitaire et même un certain discours xénophobe, on l'a vu sur les demandeurs d'asile récemment par des ministres de la CAQ, entre autres, et par le PQ, pourquoi ce discours plaît à une partie importante de l'électorat québécois en ce moment?
Ben, je pense qu'il plaît aux Québécois comme il plaît aux Américains, comme il plaît aux Français, comme il plaît aux Argentins, à plein de gens. Le populisme a traction un peu partout en ce moment. Et c'est essentiellement parce que les gens des classes populaires vivent dans des conditions qui sont souvent abjectes. Et depuis des décennies, il y a une forme de ressentiment, il y a une forme de désillusion, il y a un désespoir aussi. Et les gens sont à la recherche de solutions, parfois de solutions faciles. Mm-hmm. Et parfois, c'est des boucs émissaires que les gens trouvent avant les solutions.
Mm-hmm. Ouais, les fameux raccourcis, là. Ouais, évidemment. En terminant, comment, selon ta boule de cristal de chercheur à l'IRIS et de militant, comment vois-tu l'évolution dans les prochains mois de ces enjeux au Québec, sur la, entre autres sur la lutte au racisme?
Je pense qu'il faut qu'il y ait une remobilisation du mouvement antiraciste, puisque en ce moment, je trouve qu'il est très silencieux et qu'il n'est pas en mesure de positionner ses enjeux et ses revendications. Donc, si on veut voir une progression là, de l'antiracisme, il faut que les antiracistes se mobilisent davantage. Je pense qu'il va y avoir peut-être une fenêtre d'opportunité politique plus grande, puisque la CAQ ne va pas vraisemblablement tout rafler aux prochaines élections, mm-hmm, comme aux dernières.
Ouais.
Donc, je pense que on risque peut-être de se retrouver dans un contexte de gouvernement minoritaire où les antiracistes et tous les autres mouvements auront beaucoup plus de marge de manœuvre pour influencer, faire plier le gouvernement au pouvoir, mais ça va impliquer une mobilisation, un rapport de force et des pressions.
Oui, parce qu'actuellement, il y a des victoires au niveau juridique, mais au niveau social, politique, pas beaucoup.
Hein. C'est ça. Ouais. Il faut le dire, la gauche n'est pas très mobilisée, n'est pas très combative depuis quelques années. Mm. On voit la droite prendre la rue, être en colère et occuper beaucoup de place. Mais il faut aussi que la gauche occupe l'espace, sinon tous ces jugements-là vont rester des jugements qui recommandent aux autorités d'aller dans une certaine direction, mais les autorités ne sont pas forcées, au niveau des jugements, les jugements ne sont pas tous contraignants.
Mm-hmm, tout à fait. Sont interprétables et sont...
Ouais, et lorsqu'un jugement dit que quelque chose doit changer, le pouvoir peut le changer, mais il peut le changer d'une façon qui n'est pas nécessairement compatible avec l'esprit du jugement.
Ouais.
J'ai une petite expérience dans ce... Comme coordonnateur de la Ligue des droits et libertés, ça, je l'ai vécu récemment.
Oui, j'imagine.
Ouais, ouais. Il y a une différence entre l'esprit et la lettre.
C'est ça.
Exactement. Puis les nouvelles lois, ça se fait à tous les jours, si on veut, hein, fait que pour remplacer l'ancienne. Mm-hmm. Ben voilà, merci.
Mais moi, en tout cas, tant mieux si on a cette fenêtre d'opportunité de peut-être gouvernement minoritaire, mais la campagne électorale me fait un peu peur. La surenchère de discours anti-immigrants, ça risque parce que les deux partis qui dominent dans les sondages se positionnent vraiment sur ces enjeux-là de manière... ils sont en compétition, là, on dirait ça.
C'est ça. C'est un peu inquiétant. C'est que, il y a une possibilité de gouvernement minoritaire, mais une possibilité que les forces dominante à l'Assemblée nationale soit quand même assez hostile.
C'est ça, et quel discours populaire, enfin, bref. Fait que pour terminer, est-ce que tu aurais des plugs, par exemple, je sais qu'on a parlé du billet que tu as publié récemment, dont le titre, c'était sur Pivot, c'était dans l'IRIS directement?
Oui, c'est sur le site de l'IRIS.
Donc, qui était sur les 4 ans, finalement, le bilan du groupe d'action contre le racisme. Est-ce que tu as des conférences? Est-ce que l'IRIS a des activités?
Le 23 mai, au Conseil des arts, l'IRIS fait une conférence sur le sujet de l'éducation. C'est un événement bénéfice. Donc, si vous voulez soutenir l'IRIS, devenir membre de l'IRIS, venir nous voir, nous jaser, nous demander qu'est-ce qu'on fait. Donc, 23 mai, Conseil des arts.
À
parfait.
Montréal.
Sur Sherbrooke, l'ancienne bibliothèque, c'est iris-recherche.qc.ca. On te remercie énormément, Maxime Fortin.
Merci de m'avoir reçu.
Tu reviendras nous voir une fois le gouvernement peut-être remplacé.
Excellent.
On sait pas. Nous, on poursuit aux apatrides. On s'en va tout de suite en musique avec Mackie Lavender, la pièce « Hours ».
Absolutely no respect for stupid shit. I am mad all the time for no reason. But I do my hours at the whatever this shit is. It's not a job, but it's kinda like a job. And you could give me the blow part of what I do. Get it? Cause you know what the fuck. Whatever they say about me, I'ma go hard, I'ma go full throttle. Whatever you want to be, paid off quick. Escobablo, I'm right where I'm supposed to be. I strike him like lightning, I go off, and then I strike him, shock him when I go off through the roof like Superman when I came out the booth. Until March comes, I'ma need this loot. You getting else, boys, deja vu. This don't work out, I go back to working on the floor.
aisle 6, sports section of the 40 on St. Charles, in the west side of Montreal. That's where I was. Oh yeah. You think they gon' give me a shift? You think they gon' give me a shift? No, 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 no. Manager can suck on my dick. My manager can suck on my dick. Suck on my dick. Maybe they gon' give me some hours. Maybe they gon' give me some hours. Oh no. My manager addicted to power. My manager addicted to power. Oh yeah. You think they gon' give me a shift? You think they gon' give me a shift? Oh no, no, no. Manager can suck on my dick. My manager can suck on my dick. Suck on my dick. Maybe they gon' give me some hours. Maybe they gon' give me some hours. Oh no. My manager addicted to power. My manager addicted to power. Oh yeah. I ain't coming in. I ain't coming in, find someone else, bitch. I ain't coming in, I ain't coming in. I ain't coming in, find someone else. 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 You think they gon' give me a shift? You think they gon' give me a shift? Oh no, no, no. Manager can suck on my. A manager can suck on my dick. Suck on my dick. Maybe they gon' give me some hours. Maybe they gon' give me some hours. Oh no. My manager addicted to power. My manager addicted to power. Oh yeah. I ain't coming in. Yeah. I ain't coming in. Find someone else, bitch. I ain't coming in. I ain't coming in. Nope. I ain't coming in. Find someone else, bitch. I ain't coming in. I ain't coming in. Nope. I ain't coming in. Find someone else. I ain't coming in. Find someone else. I ain't coming in. Find someone. You think they gon' give me a shift? You think they gon' give me a shift? Oh no, no, no. Manager can suck on my dick. My manager can suck on my dick. Suck on my dick. Maybe they gon' give me some hours. Maybe they gon' give me some hours. Oh no. My manager addicted to power. My manager addicted to power. Oh yeah.
On entendait une pièce tirée du tout récent album Acoustique, c'est le titre de l'album, c'est pas un album, ben oui, c'est un album acoustique en fait, un album qui figure au palmarès local de Choc, la pièce Hours de Mackie Lavender, qui est un jeune homme noir de Montréal, je sais pas s'il s'est déjà fait profiler, mais ça existe pas, ça a l'air au Québec. Rappeur bilingue à la plume bien affûtée, dont les thèmes de prédilection sont la jeunesse black, l'amour et la santé mentale. La pièce Hours qu'on a fait jouer parle d'aliénation liée à l'accumulation de jobbing dévalorisantes. J'essayais d'identifier la station de métro où a été tourné le clip de la chanson. Je crois que c'est Lucien Lallier, mais je suis pas sûr. Donc, je rappelle le nom du chanteur. C'est chanteur-compositeur Mackie Lavender. Petite courte actualité musicale au passage. Lundi passé se tenait au Club Soda la grande finale des Francs ouvertes et on avait pour la toute première fois une artiste autochtone, Soleil Launière, qui est une jeune femme Innu du lac Saint-Jean, ou plutôt du lac Pequot-Kami. Qui se rendait jusque-là, il n'y avait jamais eu d'artistes autochtones en finale des Francs ouvertes avant 2024, 28 éditions du concours depuis 1995, et en plus, et oui, elle a remporté cette finale. Donc un gros bravo à Soleil Launière et salutations aux Innus qui sont sûrement très fiers actuellement. Je cède maintenant le micro à Marie-Ève pour des actualités autochtones, mais pas du Québec-Canada ou même d'Amérique, je crois, mais complètement d'ailleurs.
Effectivement.
On visite quel pays?
Ben là, pour l'instant, vous allez voir qu'on se promène. Bon, on va se promener pas mal.
OK, cool.
La dernière émission, Mathieu, il vous a parlé de l'instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones qui se réunissait à New York et dont la thématique cette année était le droit à l'autodétermination. Mm-hmm. Eh bien, on oublie souvent que prendre la parole devant une instance internationale n'est pas toujours sans conséquences pour les Autochtones.
Non.
Ces dernières années, le nombre de signalements et la gravité de plusieurs cas d'intimidation et de représailles contre des personnes coopérant avec l'ONU se sont accrus. On parle d'interdiction de voyager, de menaces, de harcèlement, de campagnes de dénigrement, de surveillance, d'agression physique, d'arrestation arbitraire, voire d'actes de torture et d'assassinat.
Okay.
Même que le nombre d'actes d'intimidation et de harcèlement commis dans l'enceinte même de l'ONU, en particulier contre des représentants, représentantes des peuples autochtones, a augmenté depuis le retour à la participation en présentiel.
L'ONU, dans le bâtiment de l'ONU, là, carrément.
Oui, ça, okay. C'est selon le dernier rapport annuel du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Le rapport donne l'exemple de personnes qui ont été photographiées ou enregistrées sans leur consentement, de représentants de gouvernement qui se sont adressés à des représentants de la société civile de manière intimidante avant, pendant ou après que ces personnes-là avaient participé à des réunions tenues dans le cadre de l'ONU. C'est le cas notamment des Tatars de la Crimée. Depuis 2014 l'annexion de la Crimée par la Russie, Les persécutions ont repris contre cette minorité musulmane. Mm-hmm. Moscou considère le Majlis, qui est l'Assemblée des Tatars de Crimée, dissoute par les autorités russes comme une organisation terroriste et donc limite l'enseignement de la culture tatare. Actuellement, selon le Centre de ressources des Tatars de Crimée, il y aurait 217 Tatars qui sont poursuivis pour des affaires dites criminelles et 135 qui sont là, officiellement des prisonniers politiques.
Un peu comme les Kurdes en Turquie.
Là, oui, c'est ça. Ou comme les Papous d'Indonésie ou encore les Kabyles en Algérie. Mm. Je vous invite à lire un excellent reportage de Marie-Laure Jocelyn publié dans Espace autochtone du site de Radio-Canada et qui s'intitule « Pour certains autochtones, prendre la parole à l'ONU comporte un lourd prix à payer » et qui parle de différents peuples comme ça. On reste aux États-Unis aux Nations Unies.
Oui, où le siège est aux États-Unis. Enfin.
Où le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a envoyé une longue lettre aux représentants de la France à l'ONU pour leur rappeler que leur gouvernement doit consulter et respecter le consentement libre et éclairé du peuple Kalina, qui sont des Autochtones en Guyane française, qui est un département français d'Amérique du Sud. Ça fait des mois que les Kalina du village de Prospérité expriment leur opposition au projet de centrale électrique de l'Ouest guyanais, dont la construction a commencé en 2019, et ce, sans qu'il y ait eu de consultation préalable ou de consentement libre et éclairé du peuple Kalina avant l'approbation du projet. Le chantier nécessite le déboisement de 78 hectares de forêt qui ont une importance culturelle pour les Kalina. Par ailleurs, les les terres concédées pour ce projet-là se situent dans des zones sur lesquelles les Kalina disposent d'un droit d'usage collectif depuis 2020. Je précise que la communauté n'est pas nécessairement opposée au projet hydroélectrique lui-même, mais à son emplacement, où est-ce qu'il est situé.
Okay. J'imagine qu'il n'y a pas eu tant de consultations non plus.
Ben non, c'est ça. Dans sa lettre, justement, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale dit aussi s'inquiéter d'allégations de recours excessifs à la force, de détention, de poursuites judiciaires et de condamnations pénales à l'encontre de dirigeants et de membres du peuple Kalina. Il y a Roland Jaberé, le chef coutumier de la nation, qui a lui-même été placé en détention provisoire, puis les manifestations virent parfois là, à de violents affrontements avec la police. Concrètement, donc, le comité demande aux autorités françaises des informations sur les mesures prises pour protéger les droits du peuple Kalina et sur les mesures adoptées ou envisagées pour modifier là, l'emplacement ou suspendre le projet de centrale jusqu'à ce que le consentement libre préalable et éclairé soit obtenu des peuples autochtones qui sont affectés.
C'est pas parti pour que ce soit ça.
Non, pas vraiment. je termine avec un petit saut au Japon.
Ah bon, OK.
Et là, on va parler...
Un petit saut, hein, tout petit, oui.
Ben, c'est parce qu'il va être court.
OK.
Où les Ainu, qui est un peuple autochtone du nord du pays, ont perdu à la mi-avril, en première instance, un procès inédit dans lequel ils réclamaient le droit de pêcher plus librement le saumon dans les rivières, comme leurs ancêtres le faisaient avant la colonisation japonaise de leur terre. C'est que il y a une loi de protection des ressources halieutiques. Les ressources halieutiques, ça, c'est les poissons, les algues, les coraux et autres crustacés.
D'accord.
Alors, c'est une protection des ressources halieutiques interdit en principe de pêcher le saumon dans les rivières partout au Japon.
Mm-hmm.
Actuellement, les Ainu peuvent pêcher le saumon seulement en obtenant une autorisation spéciale du gouverneur de la grande île septentrionale de Hokkaido et seulement dans un objectif de transmission de leur héritage culturel, donc pas nécessairement pour se nourrir. Mais la Rapporo Ainu Nation réclamait en justice depuis 2020 une dérogation, et c'est donc ça qui a été rejeté, cette requête-là. Le président de la Cour a estimé qu'un groupe particulier de personnes ne pouvait pas avoir des droits inhérents de pêche au saumon dans les rivières, même de façon limitée.
Bon.
Alors là, la nation Ainu va peut-être faire appel de la décision. C'est pas certain, on va voir ce qu'ils vont décider.
Merci. On entend peu parler des Autochtones du Japon.
Oui, ça faisait longtemps que je voulais en parler d'eux autres. J'avais passé cette nouvelle-là.
On en reparlera plus aussi peut-être dans les futures émissions. Donc, moi, je te garde près de moi dans le studio principal.
Oui!
Une petite pause musicale. J'ai d'autres nouvelles. Puis ensuite, on revient à Marie-Ève aux Apatrides Anonymes. deux rapports qui ont récemment été publiés. Premièrement, le 22e classement mondial de la liberté de presse publié chaque année par Reporters sans frontières, RSF, qui constate encore une fois que la tendance à la...
Que tout va bien?
Non, 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 mais des fois c'est stable dans la dans le tout va pas bien, mais là c'est vraiment une dégradation année après année. De l'exercice du journalisme, de la liberté de presse au Québec, dans le monde, au Québec c'est pas si pire que ça. Si on veut résumer très sommairement, on peut dire que les conditions sont mauvaises dans les trois quarts des pays du monde. On parle d'États qui protègent de moins en moins les journalistes et qui sont même actifs dans la désinformation. Fait saillant de ce rapport 2024, la situation à Gaza, plus de 100 journalistes tués dans les derniers mois. On mentionne aussi l'Argentine, où des médias ont été fermés par le nouveau gouvernement de Javier Milei. On parle du Niger, du Burkina Faso et du Mali, où les gouvernements, que je qualifierais d'intérimaires, contrôlent de plus en plus le narratif officiel en muselant les journalistes. En Afrique, le Togo doit aussi être mentionné pour son piètre bilan, ainsi que l'Érythrée, qui occupe le tout dernier rang mondial derrière la Corée du Nord. Les autres cancres de cette liste, souvent les mêmes que par le passé, beaucoup d'anciennes républiques soviétiques, la Russie elle-même évidemment, l'Afghanistan, la Chine, le Vietnam. En Europe, les pays problématiques sont la Hongrie, la Grèce et Chypre. Certains pays où la situation s'améliore, faut souligner le Chili, le Brésil et la Pologne, ça j'étais un peu surpris. Et les grands champions de la liberté de presse, toujours les mêmes, hein, les pays scandinaves et d'Europe du Nord, dont les trois pays baltes, Estonie, Lituanie, Lettonie et le Portugal. Bref, c'est pas difficile. Les 13 premières positions sont occupées par des pays européens, suivis du Canada en 14e position, France 21e, États-Unis, The Land of the Free, en 55e position. Le titre du rapport est « Classement mondial de la liberté de presse 2024 » et on le consulte sur rsf.org. Deuxième rapport dont je voulais parler, qui vient tout juste d'être publié aussi par Amnesty International, ça s'appelle « La situation des droits humains dans le monde ». Plus difficile à résumer que le précédent, le document fait plus de 500 pages, donc c'est très dense, c'est une explosion d'informations. On y analyse la situation dans 155 pays en fonction de plusieurs facteurs, les crises politiques et économiques, la dégradation de l'environnement, leurs impacts sur les populations marginalisées, la répression des voix dissidentes et des défenseurs des droits humains, l'hostilité envers les femmes, envers les personnes LGBTQ+, l'incitation à la haine envers certains groupes ethniques ou religieux. Le ton général employé est assez inquiétant. On parle pas juste de certains reculs, mais de points de rupture quasi définitifs dans certains cas. Donc, à lire, peut-être pas le rapport complet de 512 pages, mais on nous propose un résumé au titre lui-même assez long. Amnesty International alerte sur un tournant dans l'histoire du droit international sur fond de violations flagrantes des règles par les gouvernements et les entreprises. Je le répéterai pas. Et on trouve ça dans amnesty.org. Marie-Ève, de retour à toi pour d'autres actualités, cette fois-ci autour de l'Union européenne.
Oui, parce que peut-être que les pays qui sont moins cancres sur le plan de la liberté de presse sont des pays européens, mais en tout cas, l'Union européenne ne fait pas bonne figure sur le plan des droits des personnes immigrantes.
Mais on a le droit de le dire, au moins.
Oui. Surtout quand on n'est pas sur place.
C'est ça.
L'Union européenne multiplie les mesures donc de sanctions envers les pays qui répondent pas assez à son goût à ses demandes de renvoi de personnes migrantes en situation irrégulière. Pour rappel, quand sa demande d'asile est refusée et qu'elle doit quitter un pays de l'Union européenne, le pays d'origine de la personne doit émettre un laissez-passer consulaire pour autoriser son renvoi. Le problème, c'est que certains pays n'envoient jamais les documents en question. La délivrance des laissez-passer dépend donc beaucoup soit des partenariats ou des tensions diplomatiques entre les pays d'origine et les 27. Okay. La réponse de l'Union européenne, ben, c'est de faire pression sur ces pays d'origine-là par le biais des visas. Alors, pas de renvoi, ben, moins de visas. Et cette fois, c'est l'Éthiopie qui est ciblée, puisque l'Union européenne a décidé à la fin avril de durcir les conditions de visa pour ses ressortissants de l'Éthiopie. Les Éthiopiens, donc, ne pourront plus bénéficier de dérogation ni d'un visa à entrée multiple. Les titulaires de passeports diplomatiques, eux, seront plus dispensés de paiement des droits de visa. Et le délai aussi des traitements des demandes de visa passe de 15 à 45 jours. Je précise que ce sont des mesures temporaires, mais la date de fin de ces mesures-là, donc la temporalité n'a pas été précisée. Actuellement, c'est environ 20% des personnes migrantes en situation irrégulière qui reçoivent l'ordre de quitter l'Union européenne et qui sont renvoyées dans leur pays
20%,
d'origine.
Tu dis?
Ouais, qui sont renvoyées. Cette proportion-là était de 10% en 2021 et 2022 pour les Éthiopiens. Ça, c'est selon le Conseil de l'Europe.
Je pense que Bruxelles s'appuie sur le fait que officiellement l'Éthiopie n'est plus en guerre à cause qu'il y a eu des accords de paix qui ont été signés, mais alors qu'on sait quand même que la situation reste extrêmement violente et difficile. Mais...
Oui, c'est ça. Ouais. Puis en 2023, bien sûr, sur 430 600 ressortissants de pays tiers qui ont reçu l'ordre de quitter l'Union européenne, 83 400 ont été envoyés dans un pays hors de l'Union européenne, soit 19 % selon la Commission européenne. Mmh. Fait qu'elle trouve que les renvois vont pas assez vite puis qu'il n'y en a pas assez. Mmh. Quelques jours avant cette annonce-là, le Parlement de cette décision-là, donc le Parlement européen, lui, a adopté une série d'amendements aux règles de l'espace Schengen pour permettre à ses pays membres de fermer leurs frontières en cas d'instrumentalisation ou de facilitation d'entrée de migrants irréguliers sur le territoire de l'Union européenne.
Instrumentalisation? Mon
Dieu. Je vais vous expliquer
okay,
ça.
Ben ouais.
Je vous en avais déjà parlé de toute façon un peu en mars, assez brièvement, parce que ces amendements-là étaient à l'état de projet, mais là, ils viennent d'être officiellement adoptés par le Parlement. C'est que, l'Union européenne veut se prémunir contre d'éventuelles tentatives de déstabilisation de pays tiers qui utiliserait les personnes migrantes à des fins diplomatiques, comme par exemple quand la Biélorussie a été accusée d'en laisser passer des personnes migrantes vers la Pologne et la Lituanie à l'été 2021 en représailles aux sanctions imposées l'année d'avant par les États membres après la brutale répression d'opposants en Biélorussie. En mai de la même année, c'est le Maroc qui avait permis à des milliers de personnes migrantes d'entrer dans l'enclave espagnole de Ceuta pour protester contre l'hospitalisation à Madrid du chef du Front Polisario. Puis un an plus tôt, c'est la Turquie qui avait ouvert sa frontière avec la Grèce là dans la région de Lévros dans le but de pousser les Européens et l'OTAN à lui venir en aide en Syrie. Donc ça s'inscrit un peu là dans cette dans cette série d'événements là ou de que l'Union européenne met en place ces mesures là qui concrètement en fait ce qu'elles font c'est que les pays de l'Union vont pouvoir fermer leurs frontières soit leurs frontières extérieures ou intérieures de l'Union européenne là à d'autres pays pour une durée de 2 ans prolongeable pour 1 an supplémentaire ou encore mettre en place des restrictions temporaires. Il va y aussi y avoir des nouvelles règles pour permettre de renvoyer des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière dans le premier pays d'arrivée des migrants dans l'UE au cours de patrouilles communes de police. Le Parlement européen a cependant introduit des clauses pour éviter une mauvaise utilisation de cette nouvelle règle, je cite. C'est les situations dans lesquelles des acteurs non étatiques hostiles sont impliqués dans la criminalité organisée, en particulier le trafic de migrants, ne devraient pas être considérées comme une instrumentalisation de migrants lorsqu'il n'y a pas d'objectif de déstabilisation de l'Union ou d'un État membre. Fermez les guillemets. Et aussi, l'aide humanitaire sera pas là visée par cette nouvelle mesure-là.
On verra.
C'est ça, officieusement. Mais malgré ça, évidemment, les organisations de défense des droits des personnes migrantes estiment que l'ensemble des amendements présente un risque de discrimination et de violation du droit d'asile qui pourrait aller là, jusqu'à une forme de légalisation des refoulements ou ce qu'on appelle les pushbacks.
Risque de violence, violence policière, violence frontalière, tout ça. Mais donc, il y a comme un basculement. Les frontières, normalement, les États protégeaient les entrées dans leur territoire. Là, de plus en plus, on sous-entend qu'ils devront retenir, faire de la rétention. Donc, c'est un point de bascule, en quelque sorte.
Puis qu'ils vont surtout pouvoir les fermer préventivement.
Oui. C'est ça. Donc, ça devient comme des petites cases là, qu'on peut au gré.
Comme ça a été fait pendant la pandémie de COVID-19, entre autres. Il y a des États qui ont fait ça. Il y avait eu une mesure spéciale.
Ouais.
Mais c'est comme d'élargir et de normaliser ce régime-là.
Exactement. Intéressant et inquiétant. Merci beaucoup, Marie-Ève. Donc, on s'en va tout de suite en musique avec Echo Astral. Une autre pièce au palmarès de choc, palmarès international, dans ce cas-ci, le groupe Echo, E-K-K-O, Astral de Washington, D.C., qui décrit son style comme du mascara mosh pit, ou encore comme une purée vibrante de princesse garage post-punk, excusez ma Google traduction.
C'est un groupe féminin, j'imagine?
Je crois que le batteur ou le bassiste est masculin, mais principalement féminin.
OK.
Et queer aussi, pas mal.
Oui, j'imagine. Hein?
Leur single Beethoven, mais B-A-E-Toven, qu'on entendait, évoque notre société qui fait tout pour écraser les différences et essayer de nous rendre toutes pareilles. L'album est très bon dans son ensemble, assez varié. C'est sur l'étiquette Top Shelf Records de Portland, en Oregon, et son titre est Pink Balloons. Donc, c'était Echo Astral. J'ai Mathieu de retour autour de la table. Rebonjour.
Bonjour, bonjour.
Bonjour. Tu vas nous amener sur les îles britanniques dans 2 minutes.
Oui, ça brasse un peu, oui.
Oui, 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 je n'en doute pas. D'abord, quelques récentes statistiques morbides sur les traversées de la Manche. Morbides puisque les morts par noyade, surtout, évidemment, se sont accumulées dans les dernières semaines. C'est en constante augmentation, au point que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, a récemment exprimé une grande inquiétude sur la situation dans ce bras de mer entre la France et l'Angleterre. C'est Paolo Artini, représentant en France du HCR, qui s'est exprimé fin avril dans le cadre de la présentation d'une nouvelle étude qui cherche à mieux connaître la situation des migrants à Calais. Entrevue complète d'une dizaine de minutes, très instructive, avec M. Artini sur Info Migrants. Je rappelle le site infomigrants au pluriel tout ensemble.net. Cherchez en ligne le HCR préoccupé par l'augmentation des morts dans la Manche. Plusieurs tragédies récemment. Dernier exemple en date, le 23 avril, 5 morts, dont un enfant. Il y avait 110 personnes à bord qui ont paniqué parce que le bateau a été temporairement coincé dans un banc de sable. Ça a provoqué un mouvement de foule qui a eu raison des victimes, portant le nombre de morts sur la Manche en 2024 à au moins 15. Ce qui fait qu'en à peine 5 mois, on a déjà dépassé le total de 12 morts pour toute l'année 2023. Si on regarde les chiffres concernant le nombre de traversées et d'arrivées au Royaume-Uni, on peut supposer que ce genre de drame va continuer de se produire de plus en plus souvent. Plus de 8000 personnes migrantes ont atteint le Royaume-Uni par la mer depuis janvier, ce qui constitue un record historique. C'est environ 20-25% de plus que la même période l'année passée.
Combien de monde, tu dis?
8000.
8000, oui.
C'est ça, entre janvier et fin avril.
Fin avril, oui.
Seulement pour la journée du 14 avril, 534 migrants ont atteint les côtes britanniques. Le 27 avril, 359 migrants, et ça c'est sans compter toutes les personnes secourues, interceptées par les autorités françaises. C'est énorme, mais un nouveau record historique a été fracassé le 1er mai, alors que 711 migrants répartis dans 14 bateaux ont rejoint les côtes anglaises en moins de 24 heures. Autre phénomène qu'on constate aussi, un peu comme en Méditerranée, où les routes migratoires maritimes bougent en fonction de l'intensification de la surveillance. Sur la Manche, on assiste aussi à un transfert des routes empruntées qui partent de moins en moins du Pas-de-Calais, là où la Manche est la plus étroite, mais plus au sud, dans l'estuaire de la Somme, vers la ville de Dieppe, où plutôt qu'avoir une quarantaine de kilomètres à traverser, ça peut être plus que 100, donc beaucoup plus long et dangereux. Et être secouru par les autorités françaises, ça veut aussi dire être amené sur terre, mais du côté français, donc ce qui fait en sorte que même en situation de danger extrême, certains migrants ne veulent pas recevoir d'assistance. Tous des facteurs qui laissent présager des statistiques de mortalité qui vont continuer d'augmenter sur la Manche et qui doivent laisser pantois le premier ministre Sunak qui pensait que son accord avec le Rwanda dissuaderait des migrants de traverser, n'est-ce pas Mathieu?
C'est moi qui vais en parler, Simon, justement de,
ben,
de ça.
Je t'amène à ça.
Merci. Après la catastrophe sur la Manche, la catastrophe sur le territoire britannique.
Oui, oui, les catastrophes sur terre et sur mer.
Se multiplient. Écoute, le gouvernement britannique espère expulser vers le Rwanda 5700 demandeurs d'asile d'ici la fin de l'année, entre guillemets. Il n'y a pas de date précise. Parmi eux, 2143 exilent sont déjà identifiés et devraient bientôt être placés en détention. Les autorités tentent de localiser les autres personnes visées par la première phase d'expulsion. Londres brandit un premier chiffre pour son projet d'expulsion vers le Rwanda, adopté fin avril par le Parlement britannique, comme tu l'as précisé. Ces personnes ont été sélectionnées parmi plus de 57 000 migrants arrivés de manière irrégulière par la Manche entre janvier 2022 et juin 2023.
Donc, certains, probablement, ont déjà des emplois, des logements.
Oui, la plupart ont été déboutés ou attendent leur statut, évidemment. Depuis 2 semaines, le gouvernement mène une importante opération visant à arrêter des demandeurs d'asile dans tout le pays pour remplir des prochains avions en partance vers Kigali. Des exilés pourront être interpellés dans les bureaux des services d'immigration ou encore lors des rendez-vous de mise en liberté sous caution. Ça, c'est pour l'instant. Vous allez voir que ça se passe ailleurs aussi. Le Royaume-Uni affirme avoir procédé aux premières arrestations des demandeurs d'asile récemment. Dans une vidéo mise en ligne le 1er mai, le Home Office, ministère de l'Intérieur, montre ses premières interpellations et placements en détention. Des femmes se trouvaient parmi les personnes appréhendées par les quelques 800 agents déployés sur le territoire pour ces raids d'interpellation. Seule exception à ce plan Rwanda, les mineurs non accompagnés qui ne peuvent pas être considérés comme inadmissibles sur le territoire. Officiellement, ça aussi. Le Home Office a augmenté la capacité de détention à plus de 2200 places, a formé 200 nouveaux assistants sociaux pour traiter rapidement les demandes et a préparé 500 escortes hautement qualifiées pour mener les expulsions. Des charters commerciaux ont d'ores et déjà été réservés pour les vols futurs qui vont commencer en juillet normalement.
On sait c'est des nouvelles constructions près des aéroports où ils ont réquisitionné des hôtels.
Toutes sortes d'endroits. Okay. Puis ils ont surpeuplé des endroits aussi. Puis mais on n'a pas les détails parce que ça vient de commencer début mai. Outre les arrestations qui promettent de se multiplier, des départs volontaires ont déjà lieu vers le Rwanda.
Volontaire.
Un premier demandeur d'asile dont la nationalité n'a pas été précisée, mais qui serait ressortissant d'un pays africain, il a été expulsé au Rwanda au début mai aussi. Il faisait partie d'un programme basé sur le volontariat pour les migrants déboutés. Ça aussi, ça existe en parallèle du plan Rwanda. En acceptant l'expulsion, ces personnes déboutées peuvent recevoir une contrepartie financière pour aller jusqu'à 3000 livres sterling.
C'est un mois de loyer à Londres?
Oui. Dans une cage à poules. Les défenseurs des demandeurs d'asile se mobilisent, ne restent pas les bras croisés, afin d'empêcher les arrestations ou les transferts de migrants. Par exemple, des dizaines de personnes se sont rassemblées devant un hôtel du quartier de Peckham, dans le sud de Londres, au début mai toujours, pour bloquer un car qui devait transporter des migrants vers le Bibi Stockholm, une barge amarrée au port de Portland, où sont déjà hébergés des centaines de demandeurs d'asile. On avait parlé du Bibi Stockholm.
Il y avait de l'hébergement sur mer, je me rappelle.
Oui, dans des barges, oui. Donc, c'est pas juste comme répondre à ta question. Tu vois, c'est dans des hôtels qui arrêtent des gens aussi. Donc, ils amènent vers des barges et non pas seulement. En tout cas, 45 militants au total ont été arrêtés et placés en garde à vue seulement pour cet événement-là. Finalement, les demandeurs d'asile ont été débarqués du bus et n'ont pas été transférés suite au blocage. D'autres rassemblements semblables ont eu lieu à Londres, Glasgow, Nottingham, à proximité des centres d'immigration du ministère de l'Intérieur, où les migrants et les demandeurs d'asile ont régulièrement des rendez-vous et aussi devant les hôtels où certains sont hébergés. Je cite le ministre britannique de l'Intérieur, un imbécile qui s'appelle James Cleverly. Nous ne laisserons pas un petit groupe d'étudiants posant pour les réseaux sociaux nous empêcher de faire ce qui est juste pour la population britannique. Là, il parle des gens qui bloquent les autobus et les transferts.
Ouais, c'est très injuste.
Oui, c'est très injuste pour la population qui attend juste ça.
Il faut qu'elle aille travailler.
Oui. Ces opérations surviennent à un moment où le nombre de traversées de la Manche est allé jusqu'à 8000 entre janvier et avril, tu l'avais souligné tantôt. Un syndicat de hauts fonctionnaires a d'ailleurs déposé un recours estimant que la nouvelle loi expose les fonctionnaires à enfreindre le droit international si, comme le prévoit le texte de loi, le gouvernement britannique décide d'ignorer une éventuelle décision de la Cour européenne des droits de l'homme contre les expulsions. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de la mer d'Irlande, Simon, la République irlandaise ne compte pas accueillir les migrants qui, effrayés par l'idée d'être expulsés vers le Rwanda, se réfugieraient au conditionnel, dans le pays voisin.
C'est ça, non pas Irlande, mais Irlande.
La République d'Irlande. Dublin est actuellement en train d'amender la loi actuelle pour permettre les renvois vers le Royaume-Uni, ce qui ne se faisait pas ça l'air avant. Selon le gouvernement de Dublin, 80% des arrivées récentes d'étrangers en situation régulière se font entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Donc, les gens se rendent en Irlande du Nord et traversent la frontière terrestre. L'Irlande est en proie ces derniers mois à des tensions croissantes au sujet de l'hébergement des migrants avec une multiplication de manifestations hostiles, parfois émaillées d'incidents violents, on en avait parlé. Le manque de logements abordables et la crise du pouvoir d'achat ont alimenté un ressentiment à l'encontre des nouveaux arrivants. Depuis le 4 décembre 2023, le gouvernement a cessé de proposer un hébergement à tous les nouveaux demandeurs d'asile, fait qu'il en laisse un petit peu à eux-mêmes. Et en terminant, le gouvernement irlandais héberge actuellement près de 100 000 demandeurs d'asile, parmi lesquels 73 000 Ukrainiens et 26 000 personnes en provenance de d'autres pays. Fait que là, ils durcissent eux aussi de leur côté pour permettre les renvois. Fait que ça va se renvoyer les migrants entre l'Angleterre et l'Irlande. Ça va être fantastique, Simon.
On va avoir des traversées non seulement de la Manche, mais de la mer d'Irlande, là, éventuellement.
Oui. C'est absurde.
On s'en sort pas.
Donc, à suivre.
God Save the King. Donc, quelques casseroles et on revient avec l'agenda. Je vous parle tout d'abord de la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles, CSILC, qui tient une campagne pour le respect des droits garantis par les chartes dans les manifestations et les campements en solidarité avec Gaza partout au pays. La CSILC représente 46 organisations civiles et elle exhorte de toute urgence le gouvernement, les universités, les forces de l'ordre, toutes les entités responsables à respecter la liberté d'expression, de réunion pacifique et d'association. On dénonce la normalisation dans l'espace médiatique et politique de l'amalgame entre, d'une part, la critique du gouvernement israélien et, d'autre part, le soi-disant antisémitisme ou même pire, le soutien au terrorisme. On l'a entendu même de la voix d'élus municipaux à Montréal qui soutiennent que si on dénonce le massacre actuel, on serait automatiquement pro-Hamas. Ce sont des accusations aussi graves que vagues et infondées, une rhétorique diffamante qui vise surtout à museler la solidarité avec Gaza et justifier sa répression et sa judiciarisation, comme on l'a vu sur plein de campus à travers le Canada et les États-Unis. La coalition revendique donc les éléments suivants, qu'on cesse d'assimiler la dissidence au soutien au terrorisme, qu'on demande aux forces de l'ordre de ne pas entraver les activités de protestation, de manière plus précise, que l'Assemblée législative de l'Ontario annule immédiatement l'interdiction du kéfir.
Ben oui, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Oui,
n'importe quoi. Et que le Canada appelle à un cessez-le-feu permanent et mette un terme à toutes les ventes d'armes et aides militaires à Israël. Pour la lecture complète du texte ou pour signer la pétition, on se rend sur iclmg.ca. Autre pétition, cette fois-ci en lien avec les très longs délais de traitement des demandes de parrainage. C'est une pétition citoyenne de la Chambre des communes parrainée par Alexandre Boulris, qui concerne spécifiquement les délais de traitement au Québec, qui tournent autour de 2 ans, ce qui entraîne toutes sortes de conséquences assez désastreuses sur la vie autant des personnes qui parrainent que celles qui doivent être parrainées. Pour signer et lire les revendications plus en détail, on se rend sur noscommunes.ca/pétition au pluriel, le numéro de la pétition 4955. On a jusqu'au 25 mai pour la signer. Troisième et dernière pétition, je pense que c'est notre record de plus de pétitions à vie. Toujours au niveau de la Chambre des communes pour demander que le gouvernement canadien ne consente à aucune nouvelle demande du gouvernement français d'extrader Hassan Diab. Parce que oui, il a été extradé et détenu en France une première fois de 2014 à 2018. Mais malgré un certain acharnement judiciaire, il n'a jamais été reconnu coupable de quoi que ce soit faute de preuves fiables. Les accusations avaient été abandonnées par la justice française, mais récemment, la Cour d'appel de Paris a décidé, sur la base de témoignages secrets, de les réactiver. Mais les instigateurs de la pétition jugent qu'à 70 ans, après 6 détentions et libérations successives en France, il serait peut-être temps pour M. Diab de pouvoir vivre en paix chez lui, ici au Canada. Toujours, donc, pour la signer, c'est sur noscommunes.ca pétition, le numéro de la pétition 4901.
Yeah!
Je me sens au bingo.
Ouais.
Numéro de pétition, là.
C'est exactement ce que j'allais dire.
T'as pas crié bingo, au moins, Maria. Donc, on lâche les pétitions. Dernière suggestion à l'agenda, suggestion de film maintenant, dans le cadre de la série Droits humains à l'affiche de la Ligue des droits et libertés. Je crois que c'est le dernier rendez-vous de la saison.
Le 5e et dernier, ouais.
Merci Mathieu, avec une soirée qui aura pour thème « Travail et migration, chronique d'un esclavage moderne », 2 films présentés, en premier le court-métrage d'animation « Minoru, souvenir d'un exil », une chronique familiale sur la détention et la déportation au Japon par le gouvernement canadien durant et après la Deuxième Guerre mondiale, film de l'ONF de 1992, réalisé par Michael Fukushima. Et ce sera suivi du long-métrage de 2022, Essentiel, que je crois qu'il avait passé à la télé, qui porte sur les milliers de travailleurs, travailleuses temporaires venus de l'étranger qui sont coincés par un permis de travail fermé, ce qui les rend vulnérables à tous les abus possibles. Panéliste invité, Nina Gonzalez, du Centre des travailleurs, travailleuses et migrants. C'est gratuit, mais il faut s'inscrire sur ligue-des-droits.ca. La soirée se tiendra à la salle Alanis Obumsawin de l'ONF, Métro Place des Arts. Mardi 28 mai à 19h.
C'est la 4e soirée dernière, pardon, je me suis trompé.
C'est la dernière. Parfait. Merci de la précision. Et sur ça, ça va être la fin de l'émission dans quelques secondes. Avant de vous quitter officiellement, vous avez sûrement vu ça passer cette semaine, la pauvre Arielle Townsend, une Ontarienne d'origine jamaïcaine qui a obtenu la citoyenneté canadienne étant bébé et qui reçoit 32 ans plus tard une lettre d'Immigration Canada lui disant que sa citoyenneté est révoquée parce que sa maman, à l'époque, n'avait pas prêté serment à la bonne date. Donc, un détail administratif insignifiant. Dans la lettre, on lui offre quand même la voie discrétionnaire pour réobtenir sa citoyenneté très rapidement, mais moyennant des frais de 600 $. Marc Miller n'a pas commenté le dossier. Il doit être un peu gêné. Il doit être un peu gêné de la situation. C'est quand même de la burlescocratie de haute voltige. Félicitations aux fonctionnaires du IRCC. On va se laisser en musique avec une nouveauté de Navet Confit qui se trouve aussi au palmarès local de Choc, la pièce titre de l'album Désolé, Mouvement, Geste. D'autres exemples de pièces au nom évocateur sur cet album, Changer l'heure, Vêtements sport ou Regard de mes cheveux. Mais avec la pièce Désolé, Mouvement, Geste, on est dans un registre un peu plus sombre et même progressif que ce à quoi Jean-Philippe Fréchette, alias Navet Confit, nous a habitués. On espère que vous aimerez ça. Je vous laisse nos coordonnées. L'écoute en direct ou en rattrapage, c'est sur choc.ca ou encore dans notre site web apatridesanonymes.info. Notre courriel apatridesanonymes@resist.ca. On est sur les ondes FM de Radio Victoria sur l'île de Vancouver. Salut à tout le monde là-bas. Bon matin, même, je pense. Bon matin. Évidemment, on a
bon
une page...
Bon matin!
Merci, merci Pénélope. On a une page FB avec plein de liens sur les sujets qu'on aborde à l'émission. C'était Simon à l'animation avec mes deux précieux collègues, toujours au sommet de leur forme et de leur pertinence, Marie-Ève Mathieu. Merci.
Merci,
beaucoup.
On te rend le compliment, Simon.
Bon, ben, miroir, les compliments.
Miroir!
Donc, on se retrouve.
Ben, merci aussi à notre invité.
Oui, oui, c'est... Maxime Fortin, oui. Un grand merci. J'allais, c'était prévu.
OK.
Oh, OK, pardon.
De l'Iris, oui, très intéressante entrevue. On le réinvitera peut-être sur des sujets chauds d'actualité en rapport avec le racisme au Québec. Donc, nous, on se retrouve dans deux semaines. Normalement, c'est le jeudi 30 mai à 18h30.
Oui.
C'était les Apatrides anonymes, édition du 16 mai 2024 sur choc.ca. On se laisse donc avec Navet Confit. Portez-vous bien et bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
n'a pas de prix. Merci pour la musique. Mais c'était une belle attention.